Patrimoinez-vous.
Patrimoinez-vous.
Un voyage au cœur du patrimoine local. Et si le patrimoine était juste là?
À portée d'oreille. Le passé se raconte ici et maintenant.
Sur Radio Saint-Ferréol. Ici, au détour d'un chemin, derrière un mur de pierre ou un creux d'une vallée, le passé n'a jamais vraiment disparu. Il attend, il murmure, il se raconte à qui prend le temps d'écouter. Bienvenue dans Patrimoinez-vous, une nouvelle émission qui vous invite à partir à la rencontre du patrimoine de la Drôme et au-delà. Celui que l'on croise, parfois sans le voir, celui qui façonne nos paysages, nos villages, nos mémoires et nos vies. Car le patrimoine, ce ne sont pas seulement des monuments figés dans le temps, ce sont aussi des lieux habités, des histoires humaines, des gestes transmis, des voix, des archives, des sons ou encore des ambiances. Des châteaux et des usines, des moulins et des villages, des savoir-faire, des paysages, des traces parfois discrètes mais toujours précieuses. Tout au long de cette saison, Patrimoinez-vous vous proposera de découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques, méconnus ou oubliés du patrimoine à travers des récits accessibles, documentés et sensibles. Nous prendrons le temps de remettre les sites dans leur contexte, de faire parler les archives, de tendre le micro à celles et ceux qui font vivre ces patrimoines aujourd'hui, propriétaires, gestionnaires, historiens, bénévoles ou encore habitants. Chaque émission sera une immersion, une promenade sonore rythmée par des rencontres, des témoignages, des ambiances captées sur place et quelques respirations musicales bien sûr, pour se reconnecter au temps présent. L'objectif est simple, rendre le patrimoine vivant, donner envie de le comprendre et surtout donner envie d'aller le voir, de pousser la porte, d'emprunter le chemin. Alors installez-vous confortablement ici. L'histoire n'est jamais très loin, elle est peut-être juste en bas de chez vous.
Patrimoinez-vous.
Le passé
se raconte
ici
et maintenant.
Et pour commencer cette émission, j'aimerais revenir bien avant les villages, bien avant les routes, l'écriture, bien avant même que les paysages portent un nom. Des femmes et des hommes vivaient déjà ici. Ils suivaient les rivières, s'abritaient sous la roche, observaient les saisons. Aujourd'hui, Patrimoinez-vous vous propose un voyage dans le temps jusqu'à nos origines. Dans cette émission, nous commencerons par quelques repères essentiels. Qu'est-ce que la préhistoire? De quand à quand s'étend-elle? Et surtout, que nous apprend-elle aujourd'hui sur les premières sociétés humaines? Nous ferons ensuite un focus sur la préhistoire en Drôme, un territoire longtemps occupé par des groupes humains, comme en témoignent de nombreuses découvertes archéologiques réalisées depuis plus d'un siècle. Grottes, abris sous roches, outils, traces de vie quotidienne, la Drôme est une véritable terre de préhistoire, parfois méconnue, mais pourtant fondamentale pour comprendre l'histoire de l'humanité. Enfin, nous partirons à la découverte de sites préhistoriques à voir aujourd'hui en Drôme, des lieux encore visibles, accessibles et porteurs d'un récit exceptionnel, des sites patrimoniaux qui nous permettront de faire le lien entre les traces du passé et notre regard contemporain et de comprendre comment ces vestiges continuent de nous parler, même des dizaines de milliers d'années plus tard. Patrimoinez-vous. Et pour commencer, j'aimerais refaire un point sur les idées reçues qu'on peut trouver autour de la préhistoire. Il y en a nombreuses. Une première, par exemple, allez, les hommes préhistoriques vivaient dans des cavernes. Eh bien, c'est plus ou moins faux ou assez réducteur. En effet, les grottes servaient surtout d'abris temporaires, de lieux symboliques ou artistiques. La majorité des groupes humains vivaient en réalité en plein air, dans des campements avec des huttes, des tentes, des structures légères. En fait, on en garde peu de traces. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a oublié cette partie-là. Mais il faut comprendre que l'homme, bien que s'abritant dans les grottes, a aussi vécu à l'extérieur de ces grottes, malgré les nombreuses découvertes qu'on a pu y faire. Une deuxième idée reçue, les hommes préhistoriques étaient bruts, violents ou peu intelligents. Et voilà encore, c'est une idée reçue car ils maîtrisaient tout de même le feu, des techniques complexes de taille de pierre, la chasse collective, l'art. De nombreuses grottes ornées le témoignent encore aujourd'hui. Et il y avait une certaine forme d'organisation sociale. Autre idée reçue, la préhistoire est une période courte et figée. Eh bien non, pas du tout. La préhistoire a duré plus de 3 millions d'années, ce qui représente à peu près 99% de notre histoire humaine. Voilà, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses sur cette période. Une autre idée reçue à propos de cet objet. Est-ce que vous avez reconnu ? C'est le silex. Et longtemps, on a pensé, ou alors on a appris dans les manuels scolaires, qu'on pouvait allumer un feu avec simplement deux silex, deux pierres. Eh bien là aussi, c'est totalement faux. Pourquoi ? Les étincelles qui sont produites par la percussion de deux morceaux de silex sont plutôt froides, ce qui ne permet pas d'allumer un feu. Il fallait en réalité utiliser des pierres contenant du soufre, du bisulfure de fer, et ici permettre d'obtenir des étincelles plus chaudes, la percussion de la roche spécifique avec une roche dure provoquait des étincelles bien plus chaudes. Et ce qui permettait de faire prendre feu un objet, ici aussi facilement combustible, et on a retrouvé des chairs de champignons, l'amadouvier, un homme préhistorique retrouvé dans les Alpes datant d'il y a 5300 ans, possédait déjà un morceau d'amadouvier dans son matériel, ce qui témoigne bien de cet intermédiaire comme processus de mise au feu. Enfin, dernière idée reçue pour compléter cette liste, les dinosaures étaient des animaux préhistoriques. Eh bien non, pas tout à fait non plus, les hommes et les dinosaures ne se sont jamais rencontrés. Il faut savoir que la disparition des dinosaures est à peu près datée à il y a 65 millions d'années, ce qui représente la fin de la période du cétacé, tandis que l'homme apparaît il y a 7 millions d'années pour certaines formes d'humains fossiles, notamment le Toumaï. Et c'est lors de la séparation entre les deux lignées, celle du grand singe et de l'humain, qu'on va pouvoir commencer à vraiment parler de la préhistoire, d'après le directeur du musée archéologique de Nice. Allez, après toutes ces idées reçues, je voulais quand même faire un point sur la préhistoire. Qu'est-ce que c'est ? Donc, ouvrez vos manuels et retour à l'école. Alors, quand on parle de préhistoire, on pense souvent à une période floue, très lointaine, abstraite. Et première question assez simple, la préhistoire c'est quand ? On a commencé à le dire, ça commence avec l'apparition des premiers humains et ça se termine avec le début de l'Antiquité, la période où on commence à avoir des traces écrites, des vraies archives. En Europe, on situe généralement la fin de la préhistoire entre 3500 moins 50 et avec l'apparition des premières écritures en Mésopotamie. Mais attention, ce repère est surtout culturel et il ne correspond pas à un moment précis. Les hommes ne se sont pas dit « Tiens, on change d'époque, on passe à l'Antiquité, loin de là ». La préhistoire, donc je vous l'ai dit, c'est une période qui couvre à notre échelle plus de 99% de l'histoire de l'humanité. Si on ramenait toute l'histoire humaine à une journée de 24 heures, l'Antiquité n'arriverait qu'à la toute fin de la soirée, pour vous rendre compte de l'immensité de cette période. Donc pour y voir plus clair, les archéologues ont découpé la préhistoire en grandes périodes en fonction des techniques et des méthodes de vie. L'INRAP, l'Institut National d'Archéologie Préventive, propose une frise assez complète sur leur site. La première et la plus longue, elle s'appelle le Paléolithique, littéralement l'âge de pierre taillée. C'est une période qui a commencé il y a 3,3 millions d'années au Kenya. Toutefois, l'espèce qui a fabriqué ses premières traces archéologiques retrouvées n'est pas encore connue. À ce jour, les plus anciens restes osseux humains découverts en Afrique attestent de l'apparition du genre Homo il y a 2,4 millions d'années. Dans le reste du monde, les premières traces de fabrication d'outils, vers 2 millions d'années en Asie et vers 1,4 million d'années en Europe de l'Ouest, sont concomitantes avec l'arrivée des premiers humains. Ces derniers diffusent des traditions techniques héritées de leurs ancêtres africains notamment. À cette époque, les humains sont chasseurs-cueilleurs nomades, ils se déplacent au gré des saisons, chassent, cueillent, maîtrisent le feu, fabriquent des outils et développent déjà des formes d'art et de symbolisme. En moins 300 000, une étape majeure avec l'apparition de l'homme de Néandertal en Europe. Au cours de sa longue existence, Néandertal se propage au Proche-Orient, il côtoie l'Homo sapiens notamment, qui est originaire d'Afrique, et jusqu'en Asie où il coexiste avec l'homme de Denisova. La paléolithique s'achève vers moins 10 000 avec la fin de la dernière grande période glaciaire. À l'issue d'une cohabitation avec les Homo sapiens au cours des millénaires du paléolithique supérieur en Europe, les Néandertaliens disparaissent vers moins 30 000 et les Homo sapiens deviennent la seule espèce représentante le genre Homo. Ils mettent ici au point des traditions plus variées et plus régionalisées qu'auparavant. La diversification des outils et des armes s'accélère, les parures corporelles se multiplient et l'art figuratif fait son apparition. Vient ensuite le néolithique ou l'âge de pierre polie, c'est ici une véritable révolution car les humains commencent à cultiver des plantes, élever des animaux, se sédentariser, construire même des villages. C'est aussi l'époque des premiers monuments en pierre comme les dolmens ou encore les menhirs et une organisation sociale plus complexe. La néolithique marque alors un tournant fondamental dans notre rapport à la nature. Les techniques agricoles font leur apparition, plébiscitées pour fabriquer des outils, des armes et des parures. Cet alliage dont la couleur évoque l'or nécessite d'établir de nouveaux circuits à travers l'Europe afin de s'approvisionner en cuivre, en étain. Et c'est ainsi qu'en moins 800 commence l'âge de fer où la société se structure fortement. Une élite dirigeante organise peu à peu la répartition du travail, crée des agglomérations et connecte l'économie locale au réseau d'échanges méditerranéens en pleine expansion. Désignés sous le terme générique de Celtes par les Grecs et les Romains, les habitants du territoire correspondant à la France actuelle sont en réalité pluriels. Ils connaissent des évolutions différentes selon les régions. Les auteurs romains, grecs, sont les seuls témoignages écrits à être parvenus jusqu'à nous. Les découvertes archéologiques forgent aussi notre connaissance de ces 8 siècles clôturant la proto-histoire. Et donc on peut ainsi dater et commencer une période, pour certains historiens, qui sera l'Antiquité, et à peu près à moins 50 avant notre ère. Mais la préhistoire, ce n'est pas seulement une question de quand, c'est aussi une question de où. Nous avons commencé à l'aborder. Les premiers humains apparaissent en Afrique, berceau de l'humanité, puis au fil des siècles, de centaines de milliers d'années, le groupe humain migre, s'adapte, se colonise de nouveaux territoires. L'Europe est occupée progressivement, notamment lors des périodes les plus clémentes. La vallée du Rhône, par exemple, constitue un axe de circulation déjà majeur entre le nord et le sud, entre la Méditerranée et l'intérieur des terres, et c'est là que la Drôme entre en scène. Pourquoi ? De nombreux atouts, des cours d'eau, des ressources naturelles, des abris rocheux, une position stratégique. C'est ainsi un territoire qui a été très tôt et très longtemps occupé depuis la paléolithique. Mais alors, on en est où là ? On a des hommes un peu par-ci par-là, mais on en est où vraiment en France ? Et ben, je vous propose de partir d'un monument, d'un site patrimonial dromois qui a bouleversé les savoirs que l'on pensait acquis. En effet, je vais vous parler de la grotte Mandrin qui a fait basculer une grande partie de la préhistoire. Pendant longtemps, on pensait que l'homme moderne Homo sapiens était arrivé en Europe occidentale il y a environ 45 000 ans. Mais une découverte réalisée en Drôme, dans la Grande Mandrin, près de Malataverne, sud de Montélimar, a complètement bouleversé cette chronologie. En effet, des archéologues et paléanthropologues menés par Ludovic Slimak, chercheur au CNRS, ont mis au jour des vestiges qui prouvent que Homo sapiens était déjà présent ici il y a 54 000 ans, soit 10 000 ans plus tôt que ce que l'on pensait jusqu'alors. Cette découverte repose sur plusieurs éléments majeurs, d'abord plus de 1500 pointes de silex extrêmement fines, standardisées, taillées, avec une précision impressionnante. Des outils qui ne correspondaient pas aux traditions techniques de Néandertal, mais qui présentent de fortes similitudes avec des industries bien connues au Proche-Orient, notamment au Liban. Mais la preuve la plus spectaculaire reste la découverte de 9 dents humaines, dont une dent de lait appartenant à un enfant, Homo sapiens, âgé entre 2 et 6 ans. Analysée grâce à des technologies de pointe, cette dent est aujourd'hui les plus anciens restes d'hommes modernes identifiés en Europe occidentale. Voilà, donc il y a plus de 50 000 ans tout de même. Autre élément fondamental, l'étude des couches archéologiques montre qu'Homo sapiens est revenu régulièrement dans la grotte, probablement une fois par an pendant une quarantaine d'années, et surtout, ces passages ont eu lieu juste après ceux de Néandertal. Cela signifie que les deux humanités ont peut-être, voire sûrement cohabité sur le même territoire, voire fréquenté les mêmes sites à quelques années d'intervalle, une situation exceptionnelle qui oblige les chercheurs à repenser toutes les relations entre Néandertal et sapiens, et ça on le doit à une grotte dromoise. C'est donc un site clé à l'échelle européenne, l'un des sites les plus importants pour comprendre la transition entre Néandertal et Homo sapiens et l'extinction progressive de ces derniers il y a environ 40 000 ans. Alors pourquoi ici en Drôme? On l'a dit, c'est un axe de circulation majeur qui a vu se croiser de nombreuses générations. La grotte Mandrin est un petit abri sous roche orienté au nord, exposé au vent et enregistré pendant des millénaires des couches archéologiques remarquables bien conservées. Et on a pu identifier 12 niveaux archéologiques qui couvrent près de 120 000 ans d'histoire humaine. Aujourd'hui, ce site dromois nous raconte bien plus qu'une simple découverte locale, il nous oblige à revoir l'histoire du peuple européen, à comprendre que la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal fut longue, complexe, et que sa présence sur le continent s'inscrit dans une histoire bien plus ancienne et nuancée que prévu. Un bouleversement scientifique majeur dont les clés se trouvaient juste ici, en Drôme. Et pour continuer cette émission Patrimoine et vous consacrée à la préhistoire dromoise et aux sites préhistoriques qui ont fait notre territoire, je vous propose, avant de poursuivre vers d'autres horizons et d'autres sites, de faire une petite pause musicale, ce qui me permet de faire un petit focus sur la musique au temps préhistorique, notamment à travers la découverte de différents objets qui permettent aujourd'hui d'attester et de convaincre les archéologues et les chercheurs que la musique existait bien à cette époque. Avant de faire cette pause, il y avait peut-être déjà des instruments, avant bien les scènes, avant les partitions, avant les amplis. En effet, en 1931, dans une grotte pyrénéenne, celle de Marsoula, un groupe de chercheurs découvre un coquillage orné vieux de 18 000 ans. Un objet qui intrigue par ses 30 cm de long et ses 20 cm de large. Et c'est un objet qui a été découvert à près de 200 km de la mer. On considère alors pendant longtemps, près de 80 ans qu'il est exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, que ce coquillage est simplement un objet pour boire, une simple gourde, mais en réalité, les objets qui sont aujourd'hui réinterprétés à l'aide de nouvelles techniques de laboratoire ont permis de mettre à jour cet objet et le réhabiliter comme étant aménagé par l'homme afin notamment de retirer une partie à l'extrémité et de créer plusieurs perforations sur cet objet. Une disposition créant des sons mélodieux, plusieurs sons en soufflant à l'intérieur. Je vous propose notamment d'écouter quelques notes produites par cet objet. Et oui, les archéologues ont même trouvé des instruments encore plus vieux, pas d'enregistrement, pas de partition, pas de texte. Les seules preuves que nous disposons sont ces objets, parfois trouvés par hasard dans une grotte ou dans une couche archéologique. Un célèbre exemple, la soi-disant flûte en os de Dijebeb, en Slovénie, longtemps attribuée à Néandertal, elle s'est révélée être le résultat de morsures de charognards. Un bon rappel que tous les objets perforés ne sont pas forcément des instruments, mais cela ne signifie pas que nos ancêtres vivaient dans le silence pur et simple. Comme tous les animaux, les humains préhistoriques étaient extrêmement sensibles au son dans la vie quotidienne, et il y a sans doute une forme de proto-musique, même à cette époque-là. Différents instruments ont pu déjà être identifiés. Les premiers instruments sont l'œuvre d'Homo sapiens, ça a paru il y a environ 300 000 ans. Les plus anciens instruments avérés datent d'environ 40 000 à 35 000 ans. On connaît notamment la flûte taillée dans des os de vautours, dans la grotte d'Holmfels, en Allemagne, ou encore la grotte d'Isturitz au Pays Basque, des objets sophistiqués avec des trous et qui permettaient avec un souffle de produire des sons mélodieux. Et puis, il y a tout ce que nous ne retrouverons jamais. Des choses qui ont disparu malheureusement avec le temps, comme des tambours en peau, des instruments en bois, le chant, la danse, les gestes du corps. Autant de pratiques qu'on pourrait imaginer, mais qui ne laissent malheureusement pas de traces. Alors, depuis au moins 35 000 ans, la musique semble faire partie intégrante de l'univers spirituel humain. Une musique fragile, souvent invisible, mais profondément enracinée dans notre histoire. Et une histoire qui continue encore aujourd'hui, notamment avec le son qu'on s'écoute maintenant. Décalage total avec la préhistoire. Retour en 2026 avec un son qui fait la une en ce moment. Voici Stateside, Pink Panthers et Zara Larsson sur Radio Saint-Ferréol. Écoutez, Patrimonez-vous sur Radio Saint-Ferréol, un voyage au cœur du patrimoine drômois. De retour sur Patrimonez-vous après cette pause musicale en total décalage avec notre période préhistorique. Dans Patrimonez-vous, ce premier épisode revient au plus profond de notre civilisation et s'intéresse aux sites patrimoniaux qui font la Drôme, qui font nos territoires. En effet, la musique existait bien avant notre période. Dans les années 80, un chercheur atypique, Yegor Reznikov, que vous entendez derrière moi, mathématicien, chanteur, a proposé une idée fascinante, celle que les hommes préhistoriques auraient choisi d'orner leurs grottes en fonction de leurs acoustiques. Vous les connaissez en Drôme, en Ardèche, il y a de nombreuses grottes ornées, je pense bien évidemment à la grotte Chauvet qui nous laisse des témoignages fascinants de l'art de cette époque. Et ce chercheur, ce mathématicien, part d'une intuition assez simple, presque enfantine, qui n'a jamais crié dans une grotte pour entendre l'écho revenir. Tester le son, c'est apprivoiser l'espace, se rassurer, sentir une présence. Reznikov applique cette logique dans des grottes ornées majeures, à l'invitation d'archéologues et de chercheurs, à Nio, à Le Portel, à Arcy-sur-Cure, ou encore en Russie, et il observe un phénomène troublant. En effet, 80 à 90% des peintures se trouveraient dans des zones plus résonantes que d'autres. Mieux encore, certains endroits produisent des sons graves, évoquant des bleuglements de bisons ou des chevaux, et précisément là, sur ces parois, apparaissent des bisons, des chevaux, des mammouths, là où le son, quand il sera plus aigu, fera apparaître plutôt des oiseaux, par exemple, en peinture. Dans ces grottes, on trouve aussi des points rouges, parfois alignés dans l'obscurité. Selon ce même chercheur, ils serviraient de repères sonores marquant des endroits où la voix ou le souffle déclenche la résonance maximale. L'idée est vertigineuse, ces grottes n'étaient pas seulement décorées, elles étaient peut-être jouées, chantées, habitées par le son, des lieux de rituels, d'incantations, peut-être de transe où l'on dialoguait avec les esprits, animaux, avant la chasse, avec ses ancêtres, avec ses collègues. L'idée est assez stupéfiante, ce qu'on appelle l'archéoacoustique est ainsi née, mais elle reste bien sûr discutée. Elle est encore mieux reconnue dans le monde anglo-saxon, là où la recherche française n'a pas vraiment établi de protocole strict sur cette période-là. Patrimoinez-vous. Allez, est-ce que ça vous dit de découvrir un deuxième site encore plus près de nous? Je vous amène à Cré, dans une halte de chasse préhistorique révélée récemment. En effet, à Cré, les archéologues ont fait émerger, ont découvert des biens conservés, exceptionnellement bien conservés, vieux d'environ 28 000 à 26 000 ans. Il s'agirait d'une halte de chasse gravecienne, découverte lors de fouilles préventives menées par l'INRAP. Installée sur une haute terrasse dominant la vallée au pied du Vercors, ce campement de plein air offre une rare vue d'ensemble de la vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur. Sur une surface d'environ 100 mètres carrés, les chercheurs ont identifié deux foyers circulaires, utilisés brièvement, probablement lors d'un arrêt de courte durée. Et autour de ces foyers, plus de 1100 silex taillés ont été retrouvés. Pointe de chasse, micro-gravettes, outils pour travailler les peaux. Ces chasseurs sont arrivés avec leur savoir-faire, mais aussi avec des blocs de silex de grande qualité, parfois même venus de loin, qu'ils ont façonnés sur place. Le site révèle une occupation organisée dans un climat glaciaire rigoureux, au sein d'un paysage ouvert de steppes, de buissons et de pins. Cette découverte est rare, retrouver des outils exactement là où ils ont été utilisés permet de mieux comprendre la mobilité, les stratégies de chasse et l'organisation sociale des groupes gravesiens, une culture clé de l'arrivée de l'Homo sapiens en Europe. Et puisqu'on parle de vie sociale, de pratique de l'homme préhistorique en tant que tel, que pensez-vous de la vie sociale? Comment on vivait en drôme préhistorique? Comment était organisé le cycle de vie de l'homme préhistorique? C'est une bonne question auquel les archives ne nous répondent pas malheureusement, mais justement ces retrouvailles archéologiques, ces trouvailles, ces objets permettent de nous tracer, dresser un petit peu le portrait de la vie quotidienne préhistorique, le quotidien des hommes et des femmes qui ont façonné ce territoire, avec en premier la naissance, l'enfance, et notamment l'identification de la grotte comme un lieu de vie de la naissance jusqu'à la mort. Je l'avais évoqué, il y avait d'autres lieux de vie, mais les grottes sont quand même des traces qui nous permettent de conserver pas mal d'objets. Par exemple, celle de Vassieu-en-Vercors, d'Avendorniac, on en a retrouvé des restes humains. Les grottes servaient à abriter les familles, à protéger enfants, nourrissons des intempéries, du grand froid. Les parois étaient aussi un passeur de savoir avec ses ornements, ses peintures. Et on pouvait retrouver à l'intérieur de ces grottes, mais aussi dans différents sites archéologiques, des vestiges de foyers, des outils qui nous permettaient de mieux comprendre comment vivaient, de quoi vivaient ces hommes préhistoriques, de la chasse, les chasseurs-cueilleurs, et comment on cuisinait, comment on pêchait, et tous ces éléments-là de la vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement la vie quotidienne qui était ritualisée pour l'homme préhistorique, on allait jusqu'à ritualiser le phénomène de la mort. Les rites funéraires existaient déjà. En effet, les dolmens, les sépultures témoignent d'un rite funéraire assez bien établi depuis de nombreuses années sur ces sites-là, les dolmens de Montbrison-sur-Lèze, la terre de dolmens dans le Sud-Ardèche, avec près de 900 monuments qui témoignent de cette organisation sociale de la mort bien avant nos sépultures modernes. Il y avait aussi tout ce qui était loisirs, expression culturelle, bon, on l'a évoqué, les peintures rupestres, les sculptures, les gravures sont le témoignage d'une volonté d'expression artistique de l'homme préhistorique. On a aussi retrouvé des bijoux, des perles, des parures, des outils décorés, fonction esthétique, fonction symbolique, on ne le saura peut-être jamais, mais en tout cas, ces éléments sont bien là et ils sont bien attestés.
Un voyage au cœur
du patrimoine drômois.
Vous écoutez
Patrimoinez-vous. Si je peux vous proposer un petit tour en vrac, des choses à voir, des sites patrimoniaux à découvrir un petit peu partout en Drôme, je commencerai par bien sûr le musée de la préhistoire du Vercors. Pourquoi y aller? Parce que c'est un site exceptionnel qui retrace des millions d'années d'histoire. Ils sont exposés des trouvailles archéologiques vieilles de 4500 ans, des silex. C'est un site classé monument historique. Autour de Vassieu-en-Vercors, les chasseurs-cueilleurs sont les premiers agriculteurs du néolithique qui ont exploité ces lieux, le silex. Et donc ces outils sont naturellement exposés dans ce musée. Un musée qui est ouvert toute l'année avec des activités à y découvrir un petit peu à chaque saison, adaptées aux enfants. Voilà, un musée qui raconte le patrimoine et l'histoire du Vercors à cette période-là préhistorique. Adi, une statue menhir au musée de Die et du Diwa à découvrir. Découverte en 1992 lors de travaux, cette statue menhir néolithique reconstituée, plus de 4 mètres à l'origine, porte des gravures symboliques et témoigne de pratiques funéraires ou rituels au néolithique moyen, c'est-à-dire il y a entre 5000 et 2500 ans avant notre ère. C'est au musée de Die. Les dolmens, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y en a sur la commune de Montbrison-sur-Lèze. C'est à ce jour le seul dolmen archéologique identifié dans la Drôme, daté d'il y a à peu près 2500 ans. Et il reste encore des dalles verticales et son entourage qui symbolisait un tombeau collectif de cette période préhistorique. Pour rester sur les dolmens, on traverse le Rhône, on va en Ardèche, là où il y a la plus grande concentration de dolmens en France, avec près de 1000 monuments qui jalonnent le sud Ardèche, même un petit peu au-delà, avec ces monuments encore parfois très bien conservés, debout, ces deux parois avec cette table posée à l'issue. Tout ce qui était autour a parfois disparu, mais il témoigne là aussi de rites funéraires assez importants et de l'organisation sociale de communautés préhistoriques, l'installation à des zones bien précises de ces communautés et la mise en scène de la mort avec le corps des hommes préhistoriques, des défunts notamment, et certains objets autour d'eux. Je vous conseille d'aller faire un tour, c'est des balades complètement gratuites, faciles, avec des circuits pédagogiques bien expliqués à retrouver sur le site Terre de Dolmens, et qui permet de découvrir cette autre face de la préhistoire. Bien sûr, je ne pourrais pas parler du sud Ardèche sans parler d'Avesnes d'Orniac, cité de la préhistoire, grand site de France, une grotte spectaculaire dont l'histoire géologique rejoint l'histoire humaine. La cité de la préhistoire, elle, développe 350 000 ans d'occupation humaine, des premiers outils aux sociétés néolithiques. Une grotte à visiter sans plus tarder dans le sud Ardèche. Pour rester en Drôme, le musée d'archéologie Tricastine de Saint-Paul-Tranchateau vous propose une petite exposition sur la préhistoire en sud Drôme, comment vivait cet homme préhistorique, notamment dans sa vie quotidienne. Et bien sûr, tout au long de notre département, différents ateliers, différentes conférences pour permettre de découvrir la période préhistorique autrement, notamment en pratiquant cet art, en fabriquant, pourquoi pas vous-même, des armes préhistoriques. Et on arrive au terme de notre dernière partie d'émission Patrimonez-vous, consacrée au patrimoine de la préhistoire sur Radio Saint-Ferréol, avec une autre facette du patrimoine que je voulais explorer, c'est la mise en événementiel, la mise en événement culturel de notre patrimoine drômois, mais aussi du patrimoine en général. En effet, depuis plusieurs années, on remarque que les sites patrimoniaux sont le théâtre, deviennent un théâtre de festivités, d'animations, d'événements culturels comme des concerts, du théâtre, de la poésie et d'autres grands événements majeurs un petit peu partout sur le territoire. Et je m'intéressais donc à cette part que peuvent notamment symboliser, incarner les restes préhistoriques de nos territoires, et ce qui permettent notamment entre concerts, sous terre, festivals au cœur des villages, rencontres artistiques dans le cadre historique, une autre façon de découvrir, d'expérimenter notre patrimoine loin des vitrines de musées ou du bâtiment institutionnalisé. Quand Musique et Pierre Millenaire se répondent, par exemple, ce que vous entendez derrière moi, c'est ce qui s'est passé à un concert de The Blaze, un concert dans la grotte de la Salamandre en Ardèche, il y a quelques années. Une très belle rencontre entre musiciens et toute l'acoustique que peuvent offrir la grotte. On peut se faire des histoires, pourquoi pas imaginer que l'homme préhistorique pouvait déjà appréhender ces sons, cette acoustique. Aujourd'hui, on l'a recréé à travers différents événements comme celui-ci. Un des exemples les plus frappants de cette fusion, c'est, on en parlait, l'Avesnes d'Orniac, qui accueille souvent des manifestations culturelles. Et le 21 juillet dernier a eu lieu les 90 ans de la découverte de la grotte. Et en partenariat avec des structures locales du territoire, notamment le festival Les Cordes en Balade, un concert baptisé Debussy's Duo proposait une expérience musicale assez immersive dans les profondeurs même de la grotte. Deux violinistes du quatuor Debussy conduisaient le public au fil des salles souterraines. Voilà, c'était une véritable itinérance qui a permis à la fois de découvrir la grotte, les différentes spécificités de la grotte, tout en découvrant les spécificités du son qu'offrait cet espace aux musiciens. Ce n'était donc pas un simple concert, mais une véritable promenade sensorielle debout, au cœur de la grotte, et non en extérieur, avec différents éléments. Je vous propose notamment d'écouter tout de suite un extrait de ce concert qui a lieu en juillet 2025 dans la grotte d'Avesnes d'Orniac par le quatuor Debussy. Thank you. Et à l'occasion de ce concert donné par le Quatuor Debussy, célèbre quatuor à cordes, originaire de Lyon, mais œuvrant sur le territoire drômois et ardéchois depuis de nombreuses années, nous avons pu rencontrer Christophe Colette, le directeur artistique du Quatuor Debussy et du festival Les Cordes en Balade, qui nous a expliqué sa vision de l'investiture des événements culturels, de la musique dans ces lieux patrimoniaux. Écoutez.
Et c'est vrai qu'associer le patrimoine et la culture et la musique, c'est quelque chose qui me passionne, puisque ça nous ouvre la porte à des propositions très différentes, parce que je crois que ce qui est passionnant dans un festival, c'est justement de se promener de lieu en lieu et d'adapter le contenu et la proposition musicale au lieu que l'on rencontre. Donc c'est probablement une des caractéristiques du festival Cordes en Balade. Et c'est vraiment l'ADN du mot balade, même si on a fait un petit jeu de mots avec les deux L qui se rapprochent de la balade musicale de Chopin, mais on y associe bien entendu le mot promenade, c'est se promener, apporter la musique différemment, avec un côté convivial, un côté qui va s'adapter à la fois dans la forme, dans le contenu. C'est pas que de la musique classique, c'est du mélange. On peut avoir du jazz, de la musique actuelle, on peut mélanger tout ça et surtout profiter du lieu dans lequel on se trouve.
Patrimoinez-vous. Et voici le mot de Christophe Colette sur cette investiture du patrimoine par la musique, par les concerts. Une véritable rencontre qui permet de créer des belles synergies, originales parfois, mais qui permettent au public d'appréhender un lieu d'une façon différente. C'était le mot de la fin de ce premier épisode de Patrimoinez-vous. Alors que nous refermons ce voyage à travers la Drôme préhistorique et ses trésors, des grottes aux dolmens, des foyers néolithiques aux concerts dans les cavernes, une idée s'impose, le patrimoine n'est jamais figé, il respire à travers nos découvertes, nos histoires et nos expériences, ce qui en fait un patrimoine réellement vivant. Que vous soyez spectateur d'un foyer de pierre, promeneur sur un sentier de dolmen ou émerveillé par un concert résonnant sous la voûte d'une grotte, souvenez-vous que chaque pierre raconte une vie, un geste, un souvenir, un millénaire, et c'est en le faisant vivre aujourd'hui que nous vous assurons sa mémoire pour demain. Alors continuez à explorer, écouter, ressentir, le passé est là, il vous attend, et il n'a jamais été aussi vivant. Je vous proposerai pour la prochaine émission d'avancer un petit peu dans le temps et de découvrir la prochaine période historique, l'antiquité drômoise et son riche patrimoine. Un conseil, ouvrez bien les yeux autour de vous, le patrimoine pourrait bien être juste devant vous. Merci d'avoir écouté Radio Saint-Ferréol, c'était Enzo sur Patrimoinez-vous. À bientôt.
C'était Patrimoinez-vous.
Patrimoinez-vous.
Retrouvez l'émission
en podcast
sur le site internet
de Radio Saint-Fé.